parole du jour avec le Père Willem.
L'Église que j'aime proclame la résurrection de la chair. L'évangélisation se décline sur plusieurs champs qui tous convergent vers l'humanité terrestre de l'homme. Le soin nécessaire apporté au service de la vie qui le traverse, la révélation de son unité, corps et âme, la beauté de sa sexuation, sa finitude comme espace laissé pour l'amour, à la lumière de cette vision intégrale de l'homme, l'évangélisation doit se concentrer aussi sur sa vocation surnaturelle et éternelle. La révélation chrétienne donne du sens. Elle a des choses à dire sur les réalités terrestres et surnaturelles, d'autant plus qu'elles sont situées dans la perspective du salut. Aujourd'hui, cette question du salut et donc de la résurrection est insuffisamment intégrée aux enjeux de l'annonce de la bonne nouvelle. En témoignent les résultats d'un sondage récent. 10% seulement des catholiques déclarés affirment croire en la résurrection et la moitié environ tiennent qu'il y a quelque chose après la mort, mais on ne sait pas quoi. Dans une enquête auprès des étudiants de l'Université de Louvain, en Belgique, seuls 2% des répondants considèrent comme prioritaire de croire en Dieu et d'être sauvés. Il faut reconnaître que dans une société de l'abondance, de la technique, la médecine efficace, d'une relative sécurité, savoir de quoi nous avons été sauvés n'est pas spontanément évident. Autrefois, attribué à la foi religieuse, le salut relève de l'esprit de nos contemporains d'autres sources, la science, la technique ou la médecine. Pour des philosophes emblématiques de notre société post-chrétienne, le salut se passe de religion. Michel Onfray le remplace par l'hédonisme. André Comte-Sponville, s'appuyant sur une mystique immanente sans Dieu, situe le salut dans l'expérience d'éternité que chacun peut faire dans sa vie. Luc Ferry met le salut du côté de la raison et de la recherche de sens à échelle humaine, sans perspective d'immortalité ni de foi dans le divin. Le mot « salut » dans le christianisme trouve sa source dans « shalom » hébreu, salutation recouvrant à la fois la joie, la paix, le bonheur, l'amour en plénitude. Le salut s'éprouve plus qu'il ne se pense, et ceux qui en parlent le mieux ne sont pas forcément ceux qui réfléchissent, mais ceux qui ont connu des épreuves, le danger, la perte d'un enfant, la dépendance, le handicap, l'exclusion, ceux qui d'une façon ou d'une autre ont eu à être sauvés. Les évangiles nous aident à comprendre ce qu'est le salut de Dieu, ce salut de Dieu le montrant en action dans la personne du Christ. Jésus donne à manger et à boire quand des personnes ont faim et soif. Il pardonne, il guérit, il réanime. Tous ces registres embrassent l'intégralité des dimensions de l'homme, physiologique, psychique, spirituel. Bref, l'homme entier, corps et âme. Le salut tel qu'il se révèle dans les actions de Jésus a pour objet de nourrir et de restaurer la vie. La plus claire illustration du salut, tant dans la démarche qui conduit que dans sa perspective et dans la rencontre du Christ avec la Samaritaine qui vient chercher de l'eau à un puits. Jésus lui dit, « Quiconque boit de celle-ci aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Au contraire, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source jaillissante en vie éternelle. » Et la femme lui répond alors, « Seigneur, donne-moi cette eau que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir puiser ici. » Il y a dans le salut chrétien quelque chose qui, à l'image de l'eau, est indispensable à la vie et qui est de l'ordre de la plénitude et de l'éternité. Et Jésus poursuit, « Mais l'heure vient, elle est là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Tels sont en effet les adorateurs que cherche le Père. Dieu est esprit, et c'est pourquoi ceux qui l'adorent doivent adorer en esprit et en vérité. » En notant au passage que la pédagogie évangélisatrice de Jésus consiste à partir d'un besoin concret vital pour ouvrir à un infiniment plus grand. Cette vie en plénitude est donnée dans la relation à Dieu en esprit et en vérité. L'objet du salut est donc une réconciliation intégrale avec Dieu, source de la vie, mais aussi avec soi-même et avec ses frères. D'une certaine façon, le bonheur et le bien-être sont au salut ce que la bouteille d'eau minérale est à la source qui permet de la remplir. En fait, le salut donné par Dieu à l'homme a deux caractéristiques. Il s'adresse à l'intégralité de son être et il est définitif. Il concerne l'homme dans son entièreté, corps et âme, pour lui donner la vie et la vie éternelle. L'homme, lui, peut se faire bénéficier de statuts partiels et temporaires par ses actions au service de la vie. Il y a un sauveur, le Christ, et il y a des sauveteurs, les hommes. Dans le christianisme, le salut ne vient pas de soi-même, mais d'un autre, le Christ, lui-même passé par la mort. Il n'est pas le fruit d'une maîtrise de soi, mais l'accueil d'une altérité d'un Dieu sauveur. Il est à la fois individuel pour chaque personne et universel pour tous et toute la création. Il y a plusieurs mots pour parler du salut. La rédemption d'abord met l'accent sur le rachat du péché de l'homme, le péché étant qu'il préfère la bouteille à la source. Par le sacrifice du Christ sur la croix. La libération ensuite, inspirée du récit de l'exode du peuple juif libéré de l'esclavage, est davantage centrée sur l'aliénation de l'homme par le péché, y compris dans les dimensions sociales et politiques. La réconciliation, enfin, situe le salut dans la filiation retrouvée de l'homme vers le Dieu Père. Dans la révélation chrétienne, c'est toute la vie du Christ qui illustre le salut. Sa vie ordinaire, son enseignement, ses miracles, sa passion, sa mort, sa résurrection et son ascension. Les pères de l'Église grecque en particulier ont exprimé le caractère rédempteur de toute la vie de Jésus en développant une théologie du salut autour de quatre images du Christ. Le Christ divinisateur, dont l'incarnation divinise la nature humaine. Le Christ lumière, qui apporte le salut par sa vie et ses enseignements. Le Christ agneau immolé, livré en victime pour le rachat des péchés de l'homme. Et le Christ vainqueur, centré sur sa victoire, sur la mort. Au cours de son histoire, l'Église a davantage mis en relief tel ou tel aspect du salut. Ainsi, pendant longtemps, certains courants de l'Église jusqu'au milieu du XXe siècle, ont privilégié l'acte rédempteur du Christ dans sa passion et sa mort, comme si tout était acquis à la croix, comme si la fécondité de Jésus se mesurait à l'intensité des souffrances qu'il a endurées sur la croix.